SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Les responsables chinois font l'objet de critiques sévères concernant leur comportement à Canberra. Et en France, des sportifs se mobilisent contre le Rassemblement national. Et selon les Nations Unies, les pauses tactiques annoncées par Israël ne seraient pas observées. Le Premier ministre Anthony Albanese a fustigé la tentative des autorités chinoises de bloquer la journaliste australienne Cheng Lai, une manœuvre qu'il a qualifiée de maladroite. Les responsables chinois à Canberra sont critiqués pour leur comportement à l'égard de Cheng Lai, une journaliste australienne qui avait été emprisonnée en Chine. Des responsables chinois auraient tenté d'empêcher Madame Lai d'être visible aux caméras et de lui obstruer la vue lors d'une cérémonie de signature entre Anthony Albanese et le Premier ministre chinois Li Qiang. Selon Simon Birmingham, porte-parole de l'opposition aux affaires étrangères, le comportement des responsables chinois à Canberra est préoccupant.
It was completely inappropriate though for this to happen on Australian soil in Australia's Parliament House. It shouldn't have occurred and it's also terribly counterproductive if you think about the fact that here we are talking about this rather than what was achieved out of the visit and how we might be working through difficult issues between our countries rather than this inappropriate behaviour by Chinese officials.
Le Premier ministre chinois Qiang Li et Anthony Albanese se rendent aujourd'hui en Australie-Occidentale pour le dernier jour de la visite de 4 jours du chef du gouvernement chinois. Il est attendu que le Premier ministre Li va chercher à renforcer les relations commerciales entre les deux pays en mettant l'accent sur les minéraux essentiels. Li visitera une usine de lithium avant d'assister à une table ronde des PDG australiens et chinois, ainsi que des représentants des grandes entreprises australiennes, notamment Wesfarmers, Rio Tinto, la banque ANZ et le géant minier Fortescue. Ces discussions porteront sur les opportunités économiques et les accords de libre-échange entre les deux pays. Écoutons Bran Black, le directeur général de la Business Council of Australia, s'exprimant devant la table ronde avant l'arrivée du Premier ministre chinois.
This is the first time in 7 years we've been able to host this round table. It's a tremendous honour to have you all here, and it's also a tremendous honour to have the opportunity to present very shortly when our two leaders come a little bit later on. While there have been challenging times in the bilateral relationship between the two nations, I think it's fair to say that this is another positive point of progress.
Et les hommes politiques australiens bénéficieront d'une augmentation de salaire de 3,5% à partir du 1er juillet prochain. Ainsi, le salaire de base du Premier ministre Anthony Albanese passera à 600 000 dollars par an. La décision du Tribunal indépendant des rémunérations verra le salaire minimum d'un homme politique fédéral augmenter à 233 650 dollars par an. Le chef de l'opposition recevra un salaire de base d'environ 430 000 dollars par an. Et le salaire du plus haut fonctionnaire australien, le secrétaire du département du Premier ministre, devrait recevoir 1 million de dollars par an à partir du 1er juillet prochain. Et en France, après Kylian Mbappé et Marcus Thuram, des dizaines de sportifs ou anciens sportifs de tous bords ont signé une tribune sur le site du quotidien sportif L'Équipe, s'exprimant contre la montée de l'extrême droite aux prochaines élections législatives. Parmi les signataires, des noms connus comme Yannick Noah, Marie-Josée Pérec, Isabelle Autissier, surtout l'ancien rugbyman Mathieu Blin, 4 fois champion de France, qui n'en est surtout pas à sa première mobilisation. Mathieu Blin s'était notamment exprimé contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle de 2002. Pour lui, les valeurs du sport sont incompatibles avec celles du Rassemblement national. On l'écoute.
Le monde du sport est au quotidien du vivre ensemble. Le sport est un outil de lien social évidemment très important. Il a énormément à faire puisqu'il y a beaucoup de discrimination, beaucoup de racisme. Il n'y a pas d'inclusion totale et collective dans le monde du sport. Donc ce n'est pas du tout un message pour faire la leçon à qui que ce soit, mais pour se mobiliser puisque toutes les jeunes filles ou les jeunes garçons, quand ils pratiquent une activité physique et sportive, qu'elle soit individuelle ou collective, il y a toujours du monde autour. Il y a toujours des dirigeants, des bénévoles. Il y a énormément de rencontres. C'est évidemment beaucoup de solidarité. C'est le fait de pouvoir rencontrer des personnes différentes avec une mixité et une pluralité extrêmement importante. C'est aussi les voyages. Le voyage forme la jeunesse et quand on fait du sport, on a la chance de pouvoir en faire beaucoup, que ce soit sur nos territoires ou que ce soit à l'étranger. Donc oui, le sport doit absolument réagir face à ce Rassemblement national qui a aseptisé son discours par rapport au dogme profond et qui est là sous-jacent et qui ne mettra pas très longtemps à ressortir.
Et la crise qui secoue la Nouvelle-Calédonie depuis la mi-mai était évoquée à l'ONU. Les porte-parole des mouvements indépendantistes et non-indépendantistes, ainsi que d'autres voix, se sont exprimés ce lundi devant le comité spécial de décolonisation C24 de l'ONU à New York. Comme l'explique Coralie Cochin de Nouvelle-Calédonie la première, cette vitrine internationale a permis à chaque camp de présenter sa position.
Les loyalistes ont profité de cette tribune à l'ONU pour répondre au discours du patron de l'UC, Daniel Goa. Non, il n'y aura pas d'indépendance en septembre 2025, martèle François Suvé, chef des loyalistes au Congrès de la Nouvelle-Calédonie.
La démocratie doit être respectée, le droit international doit être respecté. Il n'y aura pas d'indépendance le 24 septembre, car les Calédoniens s'y sont opposés par 3 fois sous la supervision des Nations Unies.
Avocat du FLNKS depuis 40 ans, François Roux a pris la parole au nom des indépendantistes. Pour lui, les discussions doivent se tenir uniquement entre le peuple premier et l'État.
L'intervention dans cette instance de représentants de colons et alliés est une trahison des objectifs de ce comité. Elle doit cesser. Je respecte les personnes, mais je vous demande d'écarter les déclarations de celles et ceux qui s'identifient comme loyalistes à l'égard de la puissance administrante, et je vous demande de n'entendre que la puissance administrante elle-même. Et en deuxième point, je viens vous demander ici d'aider la France à décoloniser.
Le représentant de Fidji s'est également exprimé au nom de son archipel et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il exhorte le C24 à envoyer une mission de décolonisation de l'ONU en Nouvelle-Calédonie.
Et toujours à l'ONU, des responsables onusiens affirment que des convois d'aide de l'ONU ne sont pas arrivés dans le sud de Gaza, frappés par la faim, ce malgré les assurances israéliennes selon lesquelles la route était sûre pour les convois. Des sources de l'ONU affirment que des inquiétudes persistent quant à la sécurité le long du parcours prévu pour les camions. Le porte-parole du COGAT, le groupe de sécurité israélien responsable des expéditions d'aide, Shimon Friedman, a déclaré que seuls 62 camions ont atteint le côté gazaoui du point de passage de Kerem Shalom hier, tous appartenant à des intérêts privés.
This new initiative, which began on Saturday, allows international organizations to move on the route without having to first coordinate. This gives them greater flexibility, and we hope to see it increase the amount of aid making its way to the humanitarian zone. So far, we haven't seen the UN take full advantage of this step. Israel remains committed to facilitating aid and working with the international community to see the aid make it to where it is needed.
Et toujours à Gaza, on souligne que les bombardements israéliens sur l'enclave se poursuivent malgré une pause tactique annoncée par Israël. Comme le souligne Sami Boukhelifa de RFI, cette pause est mal interprétée.
Sur le terrain à Gaza, la situation est inchangée. Cette annonce de pause par l'armée israélienne est mal interprétée. L'armée a d'ailleurs très vite apporté une clarification. Il n'y a pas de cessation des combats. Trop tard, l'ONU a salué une pause dans les hostilités, qui, bien qu'inexistante, fait la une des médias. Dans la bande de Gaza, les bombardements se poursuivent. S'agit-il donc d'une erreur de communication ou d'une guerre de l'information savamment orchestrée ? L'annonce de cette pause a en tout cas provoqué l'incompréhension jusqu'au sein de la classe politique israélienne. Le premier ministre israélien israélien Benjamin Netanyahou a d'abord parlé d'une annonce inacceptable. Ses alliés de l'extrême droite ont farouchement critiqué cette mesure. Et l'armée a dû se justifier en expliquant que la pause avait été décidée en concertation avec l'échelon politique. De nombreux commentateurs israéliens estiment que cette affaire est surtout liée au risque de condamnation des dirigeants israéliens par la justice internationale. À qui profite donc cette confusion ? Benjamin Netanyahou. Elle lui permet d'apaiser la communauté internationale en annonçant une pause tout en poursuivant sa guerre à Gaza.
Et les dirigeants de l'Union européenne ont mis fin aux discussions pour attribuer les postes les plus élevés du bloc au cours des 5 prochaines années sans parvenir à un accord. Lors de la première réunion informelle depuis les élections au Parlement européen, 27 dirigeants nationaux de l'UE se sont réunis à Bruxelles pour discuter de qui devrait présider les réunions du Conseil européen, qui devrait diriger l'organe exécutif de la Commission européenne et qui devrait être le chef de la politique étrangère. Il était prévu que l'actuelle chef de la Commission, Ursula von der Leyen, soit reconduite pour un second mandat aux côtés de l'ancien Premier ministre portugais, António Costa, et du Premier ministre estonien, Kaja Kallas, respectivement en tant que présidente du Conseil et chef de la politique étrangère. Et le président russe Vladimir Poutine se rendra en Corée du Nord pour la première fois depuis 24 ans pour rencontrer son homologue Kim Jong-un. Le dirigeant nord-coréen a adressé une invitation à Vladimir Poutine en septembre dernier. Et ceci avait attisé des craintes que la réunion n'engendre le renforcement d'un partenariat entre les deux États dotés de l'arme nucléaire. Le conseiller en politique étrangère de Poutine, Yuri Outchakov, a déclaré que les deux pays pourraient signer un accord de partenariat incluant des questions de sécurité lors du voyage. Mais il a déclaré que l'accord ne s'appliquait qu'à aucun autre pays. De son côté, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, les États-Unis ne sont pas préoccupés par ces accords. Par contre, Washington est préoccupé par le partenariat russo-coréen.
Not just because of the impacts it's going to have on the Ukrainian people, because we know North Korean ballistic missiles are still being used to hit Ukrainian targets, but because there could be some reciprocity here that could affect security on the Korean Peninsula. Now, we haven't seen the parameters of all that right now, certainly haven't seen it come to fruition, but we're certainly going to be watching that very, very closely.
Retour en Australie, selon la sénatrice libérale Holly Hughes, les employeurs hésiteront à embaucher des femmes si le congé de ménopause est légiféré. La sénatrice libérale a fait ses déclarations lors d'un échange houleux devant un comité sénatorial sur les questions liées à la ménopause et à la préménopause. Et à présent, un coup d'œil météo à travers l'Australie. Perth, 19 degrés. Adélaïde, 16. Melbourne, 13. Hobart, 11 degrés. Canberra, 12. Wollongong, 16. Sydney, 17 degrés. Newcastle, 17. Brisbane, 22. Cairns, 26. Et Darwin, 31 degrés.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.